Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart qui se sont adaptés à la pandémie de Covid-19. Nos studios présentent une nouvelle configuration, nous ne portons pas de masque car nous sommes à 2 mètres de distance les uns des autres et nous aérons en permanence le studio. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à une minorité persécutée qui est en train de devenir un enjeu international majeur. Des millions d'Ouïghours sont enfermés et torturés dans des camps en Chine parce qu'ils sont Ouïghours. Longtemps, la communauté internationale a fermé les yeux sur la persécution subie par cette minorité turcophone à l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus fermer les yeux. Torture, déportation, campagne de rééducation, interdiction de pratiquer la religion musulmane, viol massif, mais aussi stérilisation forcée, c'est-à-dire entrave à la naissance, qui est un critère de crime de génocide. Les images et les informations qui nous parviennent de cette région du monde sont extrêmement alarmantes. Nos deux invités sont Ouïghours et elles se battent pour que le monde ouvre les yeux sur le virage génocidaire pris par le gouvernement de Pékin. Bonjour Dilnur Ehan.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, enseignante à l'INALCO, l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales à Paris. Vous êtes la lanceuse d'alerte, le visage de la cause Ouïghour en France. Vous êtes venue aujourd'hui avec Gulbahar Jalilova. Bonjour Gulbahar. Vous êtes rescapée des camps d'internement chinois dans le Xinjiang. Vous avez été l'une des premières victimes à témoigner il y a 2 ans de l'enfer concentrationnaire qui se déroule dans cette région à l'ouest de la Chine. Vous ne parlez pas français, mais Dilnur va traduire nos échanges. Dilnur, les Ouïghours sont en train de devenir le symbole de la répression pratiquée par le régime de Pékin. Et en même temps, ils restent un peuple méconnu. Qui sont-ils ?
Bonjour, merci pour cette invitation. Et les Ouïghours, une population, un peuple turcophone, de l'Asie centrale. Ils sont autochtones de l'Est, la partie orientale de l'Asie centrale, qui se situe dans le nord-ouest de la Chine actuelle. Les Ouïghours sont aussi enfin la population, l'une des populations les plus importantes de l'Asie centrale. Ils sont turciques, mais aussi majoritairement musulmans sunnites. La région où ils habitent, c'est la partie orientale de l'Asie centrale, qui est appelée aujourd'hui par la Chine Xinjiang, qui signifie nouvelle frontière, nouveau territoire, que les Ouïghours préfèrent appeler le Turkestan oriental comme le nom de leur république indépendante avant l'annexion de la Chine communiste en 1949.
Pourquoi Pékin les réprime-t-il ?
Le fond du question, c'est colonial. Comme je viens de préciser, c'est compliqué la relation entre la Chine et les Ouïghours et le pays Ouïghour. Le pays Ouïghour que la Chine nommait Xinjiang, cette région vaste comme 3 fois la France, avec une ressource minière et de pétrole et de gaz naturel qui sont extrêmement importants pour le développement de la Chine, économique de la Chine, mais aussi géostratégiquement, cette région, elle est au cœur du continent l'Eurasie. C'est la porte de la Chine vers l'Occident via l'Asie centrale, donc géostratégiquement extrêmement important pour la Chine. Et puis aussi, c'est une région coloniale qui ne s'est pas laissée se siniser depuis 70 ans, malgré les politiques diverses de la Chine dans ce sens depuis 1949, et que donc la Chine depuis 70 ans a exercé diverses politiques de sinisation, parfois dures, parfois douces, et finalement arrive enfin depuis fin 2012 avec l'arrivée au pouvoir, la désignation plutôt au pouvoir de Xi Jinping comme président de la Chine, les choses se sont accélérées et radicalisées, et que pour Xi Jinping notamment, Xi Jinping a, comme ses prédécesseurs, il a développé un nouveau concept. Dès son arrivée au pouvoir, ce nouveau concept, c'est rêve chinois, et que pour arriver au rêve chinois, il a proposé le gigantesque projet One Belt One Road, la nouvelle route de la soie, et que cette nouvelle route de la soie, elle passe d'abord par la région Ouïghour.
Malgré le contrôle de l'information pour que la vérité n'éclate pas, les informations, les témoignages, les documents, les rapports commencent à s'accumuler et à révéler un véritable système génocidaire orchestré par le gouvernement chinois. Il y a cette vidéo de prisonniers Ouïghours qui est apparue sur les réseaux sociaux et qui a fait grand bruit et froid dans le dos. Elle a été tournée par drone en 2019, mais elle a été récemment authentifiée par un groupe d'experts. Elle montre des prisonniers agenouillés à même le sol, les mains attachées, les yeux bandés, qui attendent d'être embarqués dans des trains, une veste bleue sur le dos siglée d'un numéro d'identification. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette région ?
D'abord, à partir de début 2017, fin 2016, justement dans cette répression, la Chine a instauré un vaste système de camps de concentration où on estime maintenant environ 3 millions de Ouïghours, principalement Ouïghours, mais pas que, des Kazakhs, des Kyrgyz et des Ouzbeks qui sont que des populations turques de cette région. Ils sont enfermés depuis ce temps. Dans les vidéos, ce qu'on voit, c'est probablement ces détenus des camps de concentration qui attendent d'être transférés d'un lieu, d'un camp à l'autre. À part les camps de concentration où il y a millions de personnes sont enfermées, il y a également la survie en dehors des camps. Et puis depuis 2018, on voit aussi une transformation de certains camps en camps de travail forcé et aussi en fait développement, construction des camps usines de travail forcé à la fois dans la région, mais aussi dans les villes chinoises où ils utilisent les main-d'œuvre pratiquement gratuites des Ouïghours.
La Chine dément l'existence de ces camps. Elle affirme qu'il s'agit de centres de formation professionnelle qui sont destinés à aider à la population à retrouver un emploi et à les éloigner de l'extrémisme religieux. Elle dit que ces camps-là servent à lutter contre le virus de l'islamisme. Quelle est la réalité du terrorisme et de l'islamisme dans cette région ?
En Chine, le terme islamisme n'existe pas. C'est l'islam et que le virus n'est pas l'islamisme puisque ça n'existe pas en chinois. L'islam est expliqué comme un virus et que les Ouïghours et les autres musulmans turciques sont considérés comme malades atteints de ce virus. Et au départ, enfin, la Chine avait employé ces termes dans la région pour expliquer. Et que plus tard, en fait, avec la pression internationale, la Chine a changé de vocabulaire, changé de discours, changé de présentation également. Jusqu'à octobre 2018, elle a même nié l'existence de ces camps, en bloc, elle a nié en bloc, mais face aux preuves cumulantes et évidentes, finalement, elle a dû admettre avoir recours à ces camps, mais ensuite pour dire oui, mais. Donc, commencer à justifier ces camps en disant que c'est des centres professionnels pour apprendre un métier aux pauvres Ouïghours, mais aussi pour éviter éventuelle radicalisation peut-être dans le futur.
Mais il y a eu des attentats.
Dans une situation coloniale, il y a, entre colons et colonisés, il y a toujours des conflits, tensions. Ensuite, il y a une politique coloniale discriminatoire depuis 70 ans pour les Ouïghours, qui sont discriminés quotidiennement. Et que dans ce contexte-là, il y a toujours des contestations. C'est normal, nous sommes des êtres humains, on conteste lorsqu'on est réprimé. Cependant, à partir de 2001, lorsqu'en fait, après l'attentat à New York, les termes et les stratégies de la Chine envers les contestations ouïghours ont changé. Et à partir de ce moment-là, avec l'inclusion à tort d'une organisation totalement inconnue des Ouïghours, inventée par la Chine, et qui a été classée comme organisation terroriste par les États-Unis afin d'avoir le soutien chinois dans son invasion de l'Afghanistan. C'est à partir de là que la Chine a classé toute contestation individuelle ou collective contre son pouvoir comme terrorisme. Ensuite, ce que maintenant, en fait, la Chine justifie et que tous les médias étrangers consomment tels quels, ce que vous venez de citer, c'est les fameux attentats. Il y en a, eux, trois, entre 2013 et 2014. et que à Pékin, à Urumqi et à Kunming, une autre ville chinoise. Cependant, il n'y a aucune preuve que ça soit fait par les Ouïghours. Et d'autant que il y a des théories différentes, on ne sait pas lesquelles. De toute façon, c'est un système obsolète où il n'y a pas d'informations justes qui sortent. Et que les États-Unis viennent de retirer cette organisation totalement inconnue des Ouïghours de la liste des organisations terroristes.
Mais dans un long rapport publié en 2018, l'ONG Human Rights Watch, qui est l'une des principales organisations de défense des droits humains en France, dans le monde, pardon, dénonce un degré de répression qui a nettement augmenté depuis l'arrivée en 2016 de Chen Guangguo, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui est le nouveau secrétaire du Parti communiste dans la région du Xinjiang, c'est-à-dire qui est le gouverneur de la région et qui auparavant était le gouverneur du Tibet également réprimé. Pour vous, tout est lié.
Absolument, parce que le dirigeant à la tête de la région Ouïghour, ça signifie aussi le probable dirigeant de la Chine. Ce poste, il est extrêmement important et la question, vous voyez l'importance de la question Ouïghour pour la Chine. Donc, celui qui a pu gérer la région Ouïghour, il va pouvoir gérer la Chine. C'est pourquoi, en fait, Chen Guangguo, qui était connu comme l'homme de fer pour sa gestion du Tibet pendant 5 ans et qu'il n'y a pas eu un grand incident au Tibet depuis sa gestion, a été promu à la tête de la région Ouïghour par Xi Jinping. D'ailleurs, comme vous le savez, depuis en fait fin 2019, il y a eu 3 révélations des documents confidentiels chinois qui montrent que les dirigeants, y compris, ça vient directement de l'ordre de Xi Jinping, qui dit d'avoir aucune pitié envers les Ouïghours. Et donc, bien sûr, Chen Guangguo, il ne peut pas prendre des décisions lui-même.
Tout seul.
Vient de Pékin.
Gulbahar Jalilova, vous êtes Ouïghour, originaire du Kazakhstan. Vous avez été soumise à 15 mois d'endoctrinement forcé dans ces camps, à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang. Vous avez passé 1 an et 3 mois dans 25 mètres carrés avec une trentaine d'autres détenus. C'était entre mai 2017 et septembre 2018, avant de réussir à quitter ces ténèbres. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Bonjour. Merci. Kazakhstan français.
Je suis kazakhstanaise, je suis née au Kazakhstan, j'étais commerçante, je faisais des allers-retours pour mon commerce entre Urumqi et le Kazakhstan. Et le 22 mai 2017, je venais d'arriver et que j'étais dans mon hôtel, l'hôtel Chiyu à Urumqi, et ils m'ont arrêtée de là. Ils étaient arrivés à l'hôtel pour m'arrêter à 8h du matin. 8h du matin, ils m'ont amené au lieu de Gobao, en chinois, qui est la sécurité d'État. De 8h jusqu'à 15h, ils ont fait des vérifications uniquement sur mon téléphone. Ensuite, à partir de 15h jusqu'à 11h30 du soir, ils m'ont amené dans le sous-sol. Ils m'ont mis dans une chaise tigre en fer et ils m'ont interrogé pendant des heures jusqu'à 11h30. Pendant tous ces interrogatoires, ils m'ont demandé toute ma vie. Est-ce que je fais la prière? Est-ce que mes enfants font la prière? Ils m'ont posé devant moi une feuille en disant que je dois signer le papier. Je leur ai dit que j'ai fait mes études en russe. Je ne lis ni ouïghour ni chinois. Il me faut un avocat ou encore ils doivent traduire ce qu'ils ont écrit en russe, sinon je ne signerai pas. Ils m'ont dit que je n'ai pas le droit de répliquer. Si je ne signe pas, je vais que subir. Et ils m'ont frappé vraiment fort. Ils ont envoyé cette feuille à ma famille, à mes enfants qui sont restés au Kazakhstan, sur lequel ils ont écrit que Gulbahar est terroriste. Si j'étais terroriste, ils m'auraient à eux ma signature. Ce soir-là, après minuit, ils m'ont amené dans une ancienne prison transformée en camp probablement, qui s'appelle Sankan, ils m'ont amené là-bas, à Urumqi. Lorsqu'en fait ils m'ont amené à Sankan, une personne m'a créé une pièce d'identité chinoise, alors que je suis citoyenne kazakhstanaise et que je n'ai jamais été chinoise, mais ils m'ont forcé à voir à une nationalité chinoise avec une carte d'identité. Ensuite, ils m'ont demandé de me déshabiller totalement. Il y avait des hommes, des femmes devant moi, parmi les policiers. J'ai dû me déshabiller. Ils m'ont fait tourner toute nue devant tout le monde 3 fois. Et ensuite, ils m'ont donné un uniforme jaune. Et puis, avant de donner l'uniforme, ils m'ont donné aussi une tube en plastique pour faire une vérification urinaire. C'est là que j'ai compris. Le but, c'était de savoir si j'étais enceinte ou pas. Parce que j'ai vu aussi des cas, certaines femmes, elles étaient enceintes et qu'ils l'amènent immédiatement à l'avortement. Ils la forcent à avorter. Et ensuite, ils m'ont amenée dans la cellule. Ils m'ont fait aussi des analyses de mes yeux, mais aussi en fait chacun de mes 10 doigts. Ils m'ont pris du sang. J'étais dans la cellule 704 et que j'ai trouvé cette image sur Internet, c'est exactement la même image que notre cellule. De toute façon, j'ai changé de cellule maintes fois et toutes les cellules se ressemblent. Une petite pièce, il y a une quarantaine de personnes. Au fond, ce que vous voyez aussi, c'est des toilettes sans porte. On fait nos besoins là-bas devant tout le monde. Il y a une odeur incroyable, insupportable, et on doit subir ça. On doit rester comme ça pendant toute la journée. Étant donné que nous sommes une quarantaine de femmes dans cette toute petite pièce, on doit rester dans le petit couloir de la pièce, debout. Toutes les femmes, elles sont enchaînées avec une chaîne qui fait 5 kilos dans le pied. L'une des mains, elle est attachée avec une menotte à la chaîne du pied. Donc on ne peut pas rester totalement debout, on reste penché vers le pied. 20 femmes restent comme ça et 20 autres, elles s'allongent. Il n'y a ni un lit, ni un coussin, ni couverture. C'est par terre, sur le fer. Et toutes les 2 heures, on doit changer immédiatement de place et que les 20 femmes, elles tiennent demi debout et que les 20 autres, elles s'allongent de nouveau. Je suis restée ainsi avec ces chaînes pendant 1 an, 3 mois et 10 jours. Dans la pièce, chacun des 4 coins, il y a une caméra. Et puis aussi, à côté de toilette, il y a le haut-parleur. Les policiers, ils rentrent pas. Ils donnent tous les ordres par le haut-parleur. Par exemple, comme ne parlez pas en ouïghour, parlez en chinois, chantez les chants à la gloire du parti, etc. Tous les 10 jours, ils viennent nous prendre du sang. Bien entendu, on n'a pas le droit de dire ni non, ni poser des questions. Ensuite, ils nous donnent des médicaments qu'on ne connaît pas une fois par semaine. À 52 ans, à l'époque, j'avais toujours mes règles. À partir de ce médicament, on n'a plus personne n'avait les règles. Jusqu'à ma sortie, je n'ai pas vu d'autres femmes, d'autres jeunes femmes non plus, qui ont eu des règles. Pour éviter qu'on se fasse connaissance entre les détenus, ils nous changent très régulièrement les cellules. Tous les 3 mois, ils nous changent même de camp. J'ai pas été interrogée les premiers 3 mois. Mais pendant ce temps-là, j'ai vu les autres co-détenus, les jeunes femmes, ont été amenées avec un sac noir sur la tête. Lorsqu'en fait elles reviennent, j'ai vu de mes yeux les tortures qu'elles ont subies. Elles ont été frappées violemment, très violemment, et qu'elles ont subi aussi sur les 10 doigts. Ils ont mis des épines dans les 10 doigts. J'ai vu toutes ces femmes torturées pendant trois mois, pratiquement tous les jours. J'ai été co-détenue avec les femmes entre 14 jusqu'à 80 ans. Ce qui était le plus choquant pendant toute la durée, c'était une jeune femme a été amenée. Elle venait d'accoucher. On lui a arraché le bébé. Elle ne sait pas son bébé où est-ce qu'il a été amené. Mais quand elle était arrivée dans la cellule, du lait coulait de ses seins. Les policiers lui ont donné un médicament qui a immédiatement arrêté son lait. Il nous donne trois repas à 9h du matin, à 13h et à 18h. 10 minutes avant le repas, il nous demande de chanter 5 chants à la gloire du parti de Xi Jinping, du président. Et si on ne chante pas, il n'y aura pas de repas non plus. Le repas consiste, les trois fois, c'est la même chose, c'est-à-dire 100 grammes de l'eau, et ensuite un moma. Moma, c'est du pain qui ressemble au pain, il n'y a rien à l'intérieur. Au bout de 3 mois, j'ai été amenée à l'interrogatoire avec mes chaînes et menottes dans mes mains. 2 policiers armés, ils m'ont pris les 2 bras. Derrière nous, 2 autres policiers militaires lourdement armés qui marchaient. J'ai cru qu'ils vont me tuer. J'ai cru être amenée à ma mort. Ensuite, ils m'ont amené dans une pièce sous-sol. Il y a 2 caméras. Ils m'ont mis dans une chaise tigre. Dans cette chaise en fer, vous ne pouvez pas bouger du tout. Les pieds et les mains ils sont attachés.
Avocat, perdissam, Allah yana, andesa imza atmasam, bissa ansien imza atadra yegi achkmistep.
Étant donné que pendant 3 mois j'étais enchaînée, mes pieds ils étaient tellement gonflés et abîmés.
Bonomush internetten tapte mesködem, men ochsas mastak o.
J'ai été interrogée pendant 24 heures. Je suis restée sur cette chaise, comme vous voyez sur la photo.
5 kilos kishen, mono orunduk putumusun bağılğan vaqta.
Sans bouger, sans rien vous donner. Alors, donc j'ai perdu connaissance au bout d'un moment.
Orundukta otadım. Şu amde tajavuz deydi o tajavuz kündeki iş.
Pendant l'interrogatoire, ils m'ont demandé encore de signer sur ces papiers-là. Je leur ai répété la même chose en disant que je ne sais pas lire ni ouïghour ni chinois. Ils m'ont encore frappé. Comme je n'ai pas voulu signer, ils m'ont dit, alors dans ce cas-là, on va t'amener dans un endroit où tu seras bien obligé de signer. Ensuite, ils m'ont amené dans une autre pièce où il y a rien, il n'y a pas de caméra. Ils m'ont mis sur la chaise tigre. Le jeune homme qui m'a interrogé, il a environ 27 ans. Il est venu devant moi. Il a baissé son pantalon. Je ne pouvais pas bouger. Je lui ai dit, mais tu es comme mon fils. Comment tu oses faire ça? Tu n'as pas une mère, tu n'as pas de sœur. Il m'a dit, comment tu oses te comparer à ma mère, à mes sœurs? Regarde toi-même, tu ressembles, tu n'es pas un être humain, tu es une bête. Le fait que lui, il a pris son sexe et il l'a mis dans ma bouche, je ne sais pas est-ce que ça rentre dans cette qualification de...
C'est un viol.
Lorsqu'en fait, il m'a fait ça pendant l'interrogatoire, j'ai perdu connaissance. Pendant 1 mois, on n'a pas pris de douche. Nos cheveux ressemblent à plus rien. Nos corps aussi. Nous avions des problèmes dermatologiques, de peau. Bien sûr, mon visage était tout sale. Effectivement, lorsqu'il a dit ça, il avait raison. Je ne ressemblais à rien. Je ne ressemblais pas à un être humain.
Comment est-ce que vous avez tenu dans cet enfer ?
J'ai tenu en regardant les autres femmes. Il y avait 13 jeunes femmes, des 14 ans, des adolescentes. Si je ne tiens pas, J'ai peur que je vais les influencer, je vais leur démoraliser encore plus. Dans la cellule, tous les détenus ont se donné du courage. J'ai vu énormément de femmes mourir. J'ai vu des femmes devenir folles. Il y en a une, elle prenait ses propres excréments et elle mettait sur son visage en disant que je suis devenue un homme.
Durant cette période, est-ce que vous avez un contact avec votre famille à l'extérieur, au Kazakhstan, ou aucun contact ?
Non, aucun contact, aucun procès, rien.
Comment avez-vous réussi à quitter ces camps ?
Ils ne m'ont pas relâché, c'est mes enfants au Kazakhstan. Ils ont porté plainte auprès des autorités kazakhes, au gouvernement kazakh, mais aussi ils ont écrit au gouvernement de Russie. Finalement, ils ont contacté l'ONU. Avec l'intervention de l'ONU, finalement, ils ont dû me relâcher en me disant que j'étais acquittée.
Après un exil en Turquie, terre de refuge pour des milliers d'Ouïghours, vous avez fui par peur d'être traqué par des agents à la solde de Pékin et aujourd'hui vous êtes arrivé en France et vous demandez l'asile en France. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez en sécurité?
Je suis arrivée en France depuis seulement une vingtaine de jours, donc je ne sais pas encore. Je suis venue justement parce que je pense que la France est un pays de démocratie, c'est un pays de droit humain, et donc je pense que je serai en sécurité ici. Lorsqu'en fait j'ai été relâchée, ils m'ont soignée pendant 3 jours parce que je ne ressemblais à rien et j'étais extrêmement affaiblée, je ne pouvais pas sortir. Ensuite, ils m'ont amenée de nouveau à Gobao, c'est-à-dire à la sécurité d'État où ils m'avaient interrogée. Les policiers, ils m'ont prévenue à ce moment-là. Si tu te tais et que tu ne dis rien, et que tu es toujours la bienvenue ici, on va bien t'accueillir. Si jamais tu oses raconter ce que tu as vécu ici, là, la Chine, elle est le pays le plus puissant au monde. Nous avons le bras très très long. On va te retrouver là où tu es et on va te tuer. Ensuite, ils m'ont amené chez le coiffeur, ils m'ont fait du maquillage, ils m'ont reteint mes cheveux qui étaient complètement blancs. Ensuite, ils m'ont laissé partir au Kazakhstan. Ensuite, je suis arrivée au Kazakhstan, je suis restée 20 jours, mais pendant 20 jours, j'ai voulu voir personne. Je me suis enfermée dans une pièce, j'avais trop honte de ce que j'ai vécu. Pendant ces 20 jours, j'ai écrit le nom et les détails de mes codes de détenus pour que je n'oublie pas. J'ai écrit en tout le nom de 67 femmes, où elles sont nées et avec quoi en fait elles ont été accusées. J'ai été co-détenue avec des femmes entre 14 à 80 ans et toutes ces femmes, elles m'avaient dit si je sors un jour vivant de cet enfer, je devais porter leur voix, je devais dénoncer.
Et c'est ce que vous faites depuis 2 ans. Merci pour votre témoignage qui est véritablement bouleversant et qui révèle l'ampleur de ce qui se joue actuellement dans le Xinjiang. Dilnur, on l'a vu, les femmes sont une cible. Alors il y a les viols massifs et puis il y a aussi toutes ces révélations sur les stérilisations forcées, soit une entrave aux naissances, et cela ne en finit pas d'inquiéter. Pour les ONG, les chercheurs, les activistes, ils sonnent l'heure de reconnaître un crime de génocide, puisque l'entrave des naissances est l'un des critères de crimes de génocide, inscrit dans la Convention de 1948 des Nations Unies. C'est aussi votre point de vue, il faut arrêter de tourner autour du pot.
Complètement, oui. Jusqu'à l'année dernière, nous avons beaucoup employé des termes comme ethnocide, génocide culturel, prenant en compte notamment l'interdiction des pratiques culturelles ouïghours, pratiques culturelles et religieuses, et de la langue ouïghour. Mais la réalité, c'est que en fait, ces termes-là ont pris un tournure depuis cet été, notamment après la publication du chercheur Adrien Zenz.
Oui, je vais donner des chiffres. 80% des stériles posés en Chine le sont dans le Xinjiang, alors que la région représente moins de 2% de la population chinoise. Ils sont posés sans le consentement des femmes ouïghours qui sont aussi obligées d'avorter. Vous nous l'avez raconté. Entre 2015 et 2018, la croissance démographique de la population ouïghour a baissé de 84%.
Tout à fait. Et que seulement, en fait, le rapport a été publié l'année dernière, pour le dire. Ensuite, cette année, alors, l'année dernière, ça n'a pas fait autant de bruit. Cette année, en fait, la nouveauté, c'est que ce rapport disait que cette chute a continué entre 2019 et 2020. Je ne sais pas pour quelle raison. L'année dernière, ça n'a fait aucun bruit et que cette année, ça a fait une ampleur incroyable dans les médias. Finalement, on a commencé à employer le mot génocide et que, effectivement, les critères de l'ONU contient 5 catégories. Et en réalité, pour moi, en fait, 5 catégories, dès l'année dernière, nous avons déjà commencé à réfléchir, les chercheurs, sur la question de génocide, sur la notion. Simplement, la question de l'intention était le plus problématique, parce que comment prouver qu'ils font ces crimes intentionnellement afin de déterminer cette population. Seulement, comme je disais tout à l'heure, fin 2019, il y a eu des révélations, des fuites de documents internes hautement importants de la Chine qui révèlent que c'est un projet de longue date et que les dirigeants ils sont en pleine conscience et que c'est un plan intentionnel.
Et oui, et la définition de l'ONU sur le génocide, elle est très claire. C'est un crime commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, notamment par des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Alors, utiliser le terme de génocide a des conséquences légales. La Convention de l'ONU sur le génocide oblige les États membres à le prévenir et à le punir. Fin octobre, on a pour la première fois des parlementaires d'un pays démocratique qui ont employé ce mot-là. C'était au Canada, le Parlement canadien. Au même moment, il y a eu des sénateurs américains qui ont proposé de déclarer la Chine coupable des génocides. Joe Biden, le candidat démocrate qui vient de l'emporter face à Donald Trump, parle aussi de génocide et a promis une réponse ferme dès qu'il serait élu président. Qu'en est-il en France? Est-ce que la prise de conscience, elle a également eu lieu?
Je pense que oui, notamment depuis cet été. Depuis un an, en fait, il y a eu un réveil en France sur la question du génocide ouïghour. Je pense que si le gouvernement a commencé à réagir, c'est aussi en fait parce que la population, notamment la jeunesse française, pousse le gouvernement à réagir aussi. Mais Emmanuel Macron, malgré tout, c'est le premier chef d'État qui a parlé ouvertement de cette question.
Il a dénoncé des pratiques inacceptables en septembre, et c'était un peu la première fois. Pourquoi le sort de la minorité ouïghour a pendant aussi longtemps désintéressé c'est la communauté internationale? Comment vous l'expliquez?
Justement, enfin, il y a de nombreux facteurs. D'une part, en fait, la Chine, elle a toujours présenté la question ouïghour comme, en fait, sa question intérieure. Ensuite aussi, au nom de lutte antiterrorisme, étant donné que cette notion de lutte antiterrorisme a profité à de nombreux gouvernements dictatoriaux ou autoritaires ou totalitaires pour réprimer une partie de sa population qui sont considérées comme ennemies de l'intérieur. Ce sont des, comment dire, soit minorités ethniques ou religieuses ou encore, genrées.
Vous voulez dire que le contexte mondial d'islamophobie, au prétexte de la lutte contre le terrorisme, participe
absolument
de ce silence coupable.
Pourquoi le monde n'a pas réagi? Les médias ne se sont pas intéressés à la question ouïghour. D'une part, en fait, il y a la question de gauche-droite également, parce que jusqu'à l'année dernière, une bonne partie de l'extrême gauche et les musulmans, ils étaient dans l'idée de la question ouïghour n'existait pas. Cette répression n'existait pas. C'était un complot de l'États-Unis et de la CIA. Donc, vous voyez, il y a ce côté idéologique, et que pour une partie de la population mondiale, la Chine, elle est vue comme un allié contre l'Occident et contre l'impérialisme occidental, oubliant que la Chine elle-même, c'est une puissance impériale.
Et c'est comme ça que vous expliquez un des silences le plus retentissant, c'est le silence du monde arabe et musulman. Je prends l'exemple, par exemple, de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris position en faveur des Ouïghours, mais il s'est toujours abstenu de se fâcher avec Pékin, avec des accusations directes. Pourquoi tant d'ambiguïté alors qu'on l'entend, par exemple, se lever très bruyamment aujourd'hui contre les caricatures du prophète Mahomet ?
La position de la Turquie a grandement changé depuis quelques années.
Il faut rappeler d'ailleurs que c'est la terre d'exil des Ouïghours. Aujourd'hui, il y a 50 000 Ouïghours, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sentent en sécurité là-bas non plus. Il y a des liens linguistiques très forts, culturels, mais on l'a vu avec Gulbahar, beaucoup s'en vont aussi et fuient même la Turquie.
Bien sûr. En 2009, il y a eu, à Urumqi, dans la capitale Ouïghour, il y a eu un massacre contre les jeunes manifestants Ouïghours. Recep Tayyip Erdogan, il était premier ministre à l'époque de la Turquie, et il avait mobilisé la Ligue des musulmans aussi, et puis il avait qualifié ce massacre comme un génocide. Il avait accusé la Chine ouvertement, publiquement. Mais cette position a totalement changé, radicalement changé depuis.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'économie turque plonge de plus en plus, notamment avec le coup d'État manqué de 2016, a changé les rapports de la Turquie avec l'Occident, et que la Turquie accuse de ne pas la soutenir. Et ainsi, elle commence à se tourner de plus en plus vers l'Est, notamment vers l'Iran, la Russie et la Chine. Et que d'autant que les Européens, l'Europe, il y a l'accusation européenne envers le gouvernement turc sur sa politique envers ses propres minorités aussi.
Et donc, vous êtes très en colère, vous êtes indigné de l'appel au boycott des produits français lancés par plusieurs pays arabes et musulmans, après le discours d'Emmanuel Macron prônant la liberté d'expression et la liberté de caricaturer les religions. Pourquoi ça vous a mis en colère ?
Mais en réalité, ce n'est pas une colère. C'est juste incroyable. C'est vraiment le sentiment de tous les Ouïghours à l'étranger. Je pense qu'en fait, c'est nos Ouïghours qui sont dans les camps de concentration s'ils sont au courant. Et un jour, eux aussi, ils auront ce sentiment. Je ne sais pas comment qualifier ce sentiment. C'est juste incroyable. Et que depuis 4 ans au moins, minimum depuis 4 ans, des milliers de Corans sont brûlés tous les jours. Les millions de Ouïghours sont dans les camps de concentration parce qu'ils sont considérés comme pratiquants de l'islam. L'islam, il est ouvertement accusé d'être un virus. Les femmes sont violées. Les femmes ouïghours en dehors des camps sont obligées à se marier avec des Chinois. Et puis, les signes de halal, par exemple, ou toutes les signes en arabe sont bannies désormais. Et que, mais aussi, milliers de mosquées sont totalement détruites. Certaines mosquées sont devenues aujourd'hui centres de loisirs des Chinois. Et que dans cette situation-là, les pays musulmans, ils ont massivement soutenu à plusieurs reprises la Chine et ses camps de concentration pour musulmans. Et ensuite, dans le même temps, pour moindre action, moindre parole, moindre caricature en Occident, là, ils sont prêts à descendre. Ils sont prêts à descendre dans les rues pour scander leur indignation, leur protection, leur envie de protéger la religion. Ce que j'ai envie de dire, la religion et notre prophète n'a nullement besoin de protection. Mais par contre, ces millions de vies humaines devant nos yeux Eux, par contre, eux, ils ont besoin de protection. C'est ça qui est complètement fou. C'est ça complètement, en fait, oh, je ne sais pas comment enfin qualifier ça. C'est totalement de hypocrisie totale.
Vous appelez à aller sur le terrain des sanctions économiques et vous dénoncez la responsabilité de l'industrie. Il y a 83 multinationales qui ont été pointées du doigt parce qu'elles bénéficient du travail forcé des Ouïghours dans ces camps d'internement à un moment ou à un autre dans leur chaîne de fabrication. C'est de grandes marques qui font notre quotidien, des entreprises de l'industrie de la mode, de l'automobile, de l'électronique. Il y a plusieurs marques qui ont été citées, je vais en citer quelques-unes, Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Sony, Samsung, BMW, Volkswagen. Il y a le groupe français Alstom qui est aussi cité. Est-ce que le boycott fonctionne ?
Oui. Jusqu'à assez récemment, jusqu'à il y a un an, je ne croyais pas trop en fait au pouvoir des citoyens simples comme nous, comme moi en tout cas. Mais par contre, nous avons mené avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann depuis mars dernier, depuis quelques mois, sur les réseaux sociaux, une vaste campagne contre ces 83 marques incriminées. Nous avons, en fait, nous en sommes à la sixième marque.
La sixième marque qui...
C'est-à-dire, nous avons commencé par Adidas et Lacoste, ensuite par la suite Zara et Nike et Amazon. Et parmi ces quelques marques que nous avons, contre lesquelles on a mené une campagne,
elles ont cessé leur collaboration avec les usines.
Nike, non. Nike, elle a dit ouvertement non. Donc Nike, elle a refusé de renoncer à profiter de travail gratuit des détenus Ouïghours, des Ouïghours. En revanche, nous attendons toujours la réponse, un retour de Zara et Lacoste. Adidas et H&M, ils ont renoncé. Et finalement, Amazon, pour une dernière, Amazon, elle a dit qu'elle avait renoncé déjà parce que il y avait déjà, en fait, en raison de la loi américaine qui a passé il y a pas longtemps, qui a obligé des entreprises américaines à se retirer immédiatement. Des collaborations éventuelles.
Et d'ailleurs, en France, nous aussi, depuis 2017, on a la loi du devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre qui doivent engager leurs responsabilités en cas de violation des droits humains à une quelconque étape de leur production. Finalement, cette loi n'est pas respectée.
Ça, on peut voir déjà, en fait, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, il a répondu à la question d'une députée LRM, Caroline Dubost, je crois, sur cette question-là, et qu'il a souligné qu'il demande aux entreprises françaises de respecter et que de si elles n'ont pas respecté ces engagements-là, qu'ils fassent maintenant. Cela signifie que en fait, il n'y a aucune obligation pour ces entreprises, il n'y a aucune punition à leur égard. Sinon, le ministre, il n'aura pas tenu ce discours-là.
Vous avez cité la campagne de mobilisation faite aux côtés de l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, qui est effectivement un des politiques français les plus impliqués dans la cause ouïghour aujourd'hui en France. Ça consistait à mettre un carré bleu, notamment sur les réseaux sociaux, et alors mettre un carré bleu sur Facebook, Instagram ou Twitter, ça marche, ça a un impact?
Oui, c'était en fait le jour choisi, c'était important aussi, et que la couleur aussi. Parce que c'était le 1er octobre, c'est la fête nationale de la Chine, c'est aussi le jour le commémoratif de la colonisation du pays ouïghour. C'est pour ça que c'est important. Et puis, pourquoi bleu? Parce que le bleu, c'est la couleur ouïghour, et que c'est la couleur du drapeau ouïghour. C'est pourquoi nous avons voulu mobiliser toute la France autour de ça, et que ça a touché beaucoup la diaspora ouïghour. Cela signifie que les Français, la France, ils sont aux côtés des Ouïghours, et que les Ouïghours, ils ne sont pas seuls.
Quelle est la prochaine étape de votre mobilisation?
On espère en fait de pousser l'Europe via la France, via la force de la France, à adopter des mesures réelles au niveau européen.
Et des sanctions économiques.
Sanctions économiques, c'est ça qui est le plus important, sanctions économiques. Il n'y a que ça, cela en fait fonctionne pour que la Chine arrête Et ferme les camps de concentration. L'objectif, c'est faire fermer les camps de concentration. C'est une honte d'avoir camps de concentration ethniques et religieux en 2020.
Merci Dilnur Lehran. Merci Gulbahar Jalilova. Bon courage à toutes les deux pour votre combat très important. Merci.
Merci à vous aussi.
À très bientôt sur Mediapart.